Les chroniques de l'E2C, troisième rendez-vous. Je suis en compagnie de 6 personnes avec moi dans le studio. 3 stagiaires, Emma Dupérier, Jessim Hadou et Ornella Lecallier. Bonjour.
Bonjour.
On va revenir tout à l'heure sur votre parcours, je crois que c'est prévu. Et puis, en face de vous, chargée d'intégration Alexandra Baya, bonjour.
Bonjour.
Référent santé Franck Revenu et animatrice pédagogique Léa Noulin, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, j'ai un petit peu insisté sur chargée d'intégration, parce qu'on va revenir justement sur votre rôle au sein de l'E2C. On va rappeler rapidement aussi ce qu'est l'E2C, même si c'est un petit rappel qu'on fait régulièrement, mais étant donné que cette émission a lieu tous les 3 mois, peut-être que les auditeurs oublient aussi ce qu'est l'E2C. On peut le rappeler juste avant de revenir sur votre rôle, Alexandra, justement.
Alors, pour rappel rapidement, l'E2C, donc, c'est un centre de formation professionnelle qui accueille des jeunes de 16 à 30 ans, certains en situation de handicap. Le rôle de l'E2C, ben, c'est d'aider les jeunes à valider un projet professionnel qui s'effectue en alternance entre les périodes en centre et les entreprises. C'est également un parcours individualisé avec une durée indéterminée, donc ce qui laisse en fait le temps à chacun de se projeter et puis d'arriver à savoir un petit peu ce qu'ils veulent faire.
Voilà. Et puis ça passe aussi par des projets qui sont effectués, qui vont venir aussi par la suite, des projets variés sur plusieurs thèmes, sur
tout à
plusieurs
fait.
Thématiques,
voilà.
On va revenir.
C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une alternance. Alors, lorsque les jeunes sont en centre de formation, il y a évidemment de la remise à niveau sur les savoirs de base, mais on travaille énormément ce qu'on appelle, nous, le développement personnel du jeune. Et donc, ça passe à travers des projets, à travers des activités, que ce soit citoyennes, artistiques, etc. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui se font avec eux.
Et puis, justement, vous travaillez, vous, à l'intégration. Quel est votre rôle au sein de l'E2C ?
En fait, mon rôle, c'est de préparer l'entrée du jeune. C'est-à-dire que je vais être le premier contact qu'ils vont avoir sur l'E2C. Donc, les jeunes nous sont envoyés principalement ce qu'on appelle par prescription, c'est-à-dire avec les organismes qui accompagnent ces jeunes. Alors, on a la mission locale, Pôle emploi, voilà, pour ne citer qu'eux, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, en fait, l'idée, c'est, si vous voulez, que les jeunes arrivent serein en fait sur le dispositif. Certains d'entre eux ont quitté l'école il y a déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, et ils ont besoin un petit peu de se remettre dans le bain, donc on va y aller tranquillement. Donc on part déjà sur un entretien individuel qui s'effectue sur le site de l'E2C. Alors les sites, puisqu'effectivement nous on a 3 sites sur le département de la Nièvre, le site
Château-Chinon aussi,
de Vauzelles, Château et puis Caune. Donc je rencontre les jeunes soit sur les sites directement, ou alors je peux me déplacer dans les missions locales, sur Pôle emploi, voilà, où c'est aussi pour eux des fois le plus simple de faire la première démarche.
Comment vous abordez un entretien avec, avec un jeune qui se présente devant vous selon son attitude, selon sa motivation, sa volonté aussi? C'est toujours une sorte d'adaptation
ouais,
par rapport
sûr,
à l'interlocuteur.
Obligatoirement. Alors, il y a un fil conducteur quand même, c'est-à-dire que l'entretien me permet déjà d'avoir un petit... connaître un petit peu plus le jeune sur son passif scolaire, etc. Et... aussi un petit peu plus personnel, d'un point de vue plus personnel. Après, effectivement, ça se fait un petit peu au feeling, c'est-à-dire qu'on sent si le jeune il est prêt aussi à se livrer un petit peu, ou si on sent qu'il y a un petit peu plus de réserve. Mais effectivement, l'entretien va vraiment se dérouler en fonction du ressenti. Et puis, d'une manière générale, ça se passe toujours bien de toute façon, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vraiment adapté. Un entretien peut durer un quart d'heure comme il peut durer une heure. Mmh. Voilà. C'est vraiment en fonction aussi de leurs besoins. Et puis, on ressent le côté... ça fait 8 ans et demi que je travaille là. Donc, c'est vrai que le côté... le premier abord, si vous voulez, j'arrive à le détecter assez rapidement. Donc, si un jeune est en mesure de se confier un petit peu ou s'il est plus sur la réserve, je vais respecter ça. Mmh. Et puis, effectivement, on va apprendre un peu plus à le connaître une fois qu'il aura intégré.
Votre rôle, il est primordial aussi dans le principe où c'est vous qui allez communiquer ensuite à toutes les personnes. Je pense notamment à Franck, à Léa aussi, sur l'attitude du jeune.
C'est ça. Tous les collègues, en fait, qui vont recevoir le jeune ensuite en parcours, parce que moi, en fait, je vais passer le relais. C'est-à-dire que moi, je m'occupe de tout l'amont, avec toute la partie administrative également. Ça va être aussi justement de passer le relais, mais expliquer un petit peu à mes collègues, alors le ressenti que j'ai, qui n'est pas forcément peut-être le bon sur le moment, mais en tout cas moi ce que j'ai ressenti, surtout aussi les besoins des jeunes en fait, ce qu'on va ressentir principalement et ce que je vais transmettre, ça va être quels vont être ces besoins primaires je dirais, s'il y a vraiment des choses à mettre en place aussi rapidement, peut-être d'un point de vue santé, voilà. L'accompagnement à l'E2C, c'est un accompagnement transversal, on est là pour les aider à valider un projet pro, mais on est là aussi pour les aider à avancer dans leur vie perso. S'ils ne sont pas bien, d'une manière générale, dans leur vie personnelle, il est difficile de les emmener à l'emploi. et inversement. Donc du coup, c'est pour ça qu'on les accompagne aussi sur tout un aspect, là pour le coup, vraiment de développement personnel, où vont intervenir Franck, Léa, enfin tous les animateurs, mais également les formateurs, tous ceux qui accompagnent le jeune en fait.
Quel sujet vous abordez dans les grandes lignes ?
Alors dans les grandes lignes, ça va être un petit peu la situation familiale actuelle, enfin en tout cas familiale, le logement, etc.
Ouais, bien sûr,
je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf s'ils le souhaitent.
Étant donné que l'âge peut varier de 16 à 30 ans, c'est relativement large, donc c'est un jeune qui peut être encore chez ses parents ou pas forcément.
Complètement, puis on a des jeunes qui sont en foyer par exemple, qui sont en famille d'accueil, etc. Donc forcément, indirectement, c'est des choses à prendre en compte tout ça, parce que ça veut dire que le parcours du jeune, il ne va pas forcément être
le même vécu, bien sûr.
Bien sûr. Je vais aborder justement ce passif-là un petit peu, s'il y a eu par exemple des placements ou des choses comme ça, s'il y a un suivi médical, un suivi judiciaire, parce que ça arrive, un suivi par des éducateurs, c'est très large, et puis surtout la scolarité, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de découvrir des stages, s'ils ont pu faire des stages, s'ils ont une petite expérience professionnelle, quelle qu'elle soit. Et puis surtout on aborde évidemment les projets du coup, donc au premier abord ce qu'ils aimeraient faire. Et puis on en parle parce que souvent, on est des fois obligé de déconstruire des choses qui ne sont pas viables. Mais voilà, on commence à aborder un petit peu le sujet, mais après, ça va être le rôle ensuite des formateurs, etc.
Justement, Léa, Franck, la présence d'Alexandra dans cette démarche, dans cette organisation, elle est primordiale. C'est la première personne, c'est la plus importante pour bien intégrer un jeune et pour que vous, ensuite, par la suite, vous sachiez comment peut-être aborder aussi certains sujets avec un stagiaire.
Oui, tout à fait, parce que une fois que Alexandra les a rencontrés, elle nous fait un retour sur ses entretiens. Et nous, on a déjà, elle nous donne un petit profil en fait des jeunes qui permet déjà d'avoir un premier on sait déjà un petit peu quel profil on va recevoir et à quoi s'attendre. Donc ça permet aussi d'anticiper un petit peu certaines entrées. De certains stagiaires, oui.
Justement, cette intégration, on va en parler avec les trois stagiaires qui sont avec moi, Emma, Jessim et Ornella. Ornella, tu es depuis quand à l'E2C ?
Ça fait 7 mois.
D'accord. Je ne sais pas en fait combien de temps dure
Donc effectivement, comme je vous le disais, l'avantage aussi, c'est que c'est un parcours à durée indéterminée. Donc je sais quand ils vont arriver, on ne sait jamais quand ils repartent en gros.
Vous avez une idée quand même lors de l'entretien, vous, combien de temps un jeune peut rester ou pas?
Absolument
forcément.
Pas, non. Mais vraiment pas, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, alors sauf si par exemple on veut avoir un objectif très précis qui va être une entrée en formation par exemple, un jeune vise une entrée en formation, si on sait que cette entrée en formation elle a lieu dans 4 mois, on peut espérer, mais après comme je vous disais, ça peut être amené à être totalement changé au niveau des projets.
Oui bien sûr.
Donc on peut pas savoir à l'avance combien de temps ça dure. Et donc la moyenne actuellement c'est environ 7 mois, mais c'est une moyenne.
Alors toi Ornella, ça fait donc 7 mois, quel est ton parcours au sein de l'E2C pour l'instant ?
Alors quand je suis arrivée, en fait mon projet professionnel c'était de base travailler avec les animaux. Sauf que après au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que c'était pas possible, surtout dans ce secteur-là. Il n'y a pas beaucoup d'embauches. Donc
Qu'est-ce que tu voulais faire ?
Être dans les soins ou je sais pas trop, mais je voulais être avec les animaux en tout cas.
D'accord.
Mais du coup, j'avais vu que il y avait pas assez d'embauches, etc. Donc je me suis retournée vers l'animation, qui m'a beaucoup plu parce que j'ai fait un stage de 3 semaines. Et j'ai peut-être une future formation au mois de septembre.
D'accord, félicitations.
Merci. Et puis après j'ai fait plusieurs stages, j'ai fait en vente, j'ai fait dans des refuges animaliers, en EHPAD.
Bon, on te souhaite le meilleur pour la suite. Et ton intégration, elle s'est passée comment alors justement ?
Très très bien. Après, c'est vrai que j'avais un groupe qui n'était pas trop ça, mais moi j'ai bien aimé, donc...
Tu appréhendais un petit peu cet entretien que tu as eu avec Alexandra ou pas spécialement ?
Non.
Non ? C'était pas forcément impressionnant des fois devoir parler de soi, devoir aborder des sujets qu'on a peut-être pas forcément envie d'évoquer ou...
Non, j'étais très à l'aise donc ça va.
Jessim, c'était ton cas aussi ou pas spécialement ?
Non, moi je me suis très bien intégré, je suis arrivé dans un groupe qui a été déjà mis en place, mais vu que je suis assez communicatif, j'ai réussi à très bien m'adapter.
Ça fait combien de temps là que tu es à l'E2C ?
Ça va faire actuellement 2 mois.
D'accord, donc toi pour le coup c'est récent ?
Oui, c'est récent. Ouais.
D'accord, et alors quel est ton parcours depuis en 2 mois ?
Mon parcours c'est, j'ai fait d'abord un stage, on m'a fait découvrir la mise en rayon, coup dans un magasin bio.
Okay.
Et après, je suis revenu à l'E2C pour continuer mon évolution.
D'accord, donc tu voudrais rester dans cet aspect-là ?
Alors non, pas du tout. Moi, ça serait plus dans le domaine de la gendarmerie.
D'accord.
Parce que j'avais fait un service national, du coup, l'année dernière en tant que tuteur.
Okay.
Et vu que le côté militaire m'avait beaucoup plu, bah, je me suis dirigé, du coup, avec Pôle emploi qui m'a aidé à passer mes tests, du moins avoir une convocation pour passer mes tests à Dijon en tant que gendarme.
D'accord. Et alors, cette intégration, justement, pareil, t'es, comment on est là ? Tu l'as bien vécu, ça s'est bien passé ? T'appréhendais pas forcément cet entretien où tu devais peut-être aborder des sujets personnels que t'avais pas forcément envie de...
Non, non, pas du tout. Moi, au contraire, j'ai beaucoup aimé du coup, l'entretien que j'ai eu. Et du coup, bah, moi, j'avais techniquement un objectif assez précis. Mais voilà, je cherche toujours à découvrir toujours plus.
Donc ce sera le cas encore lors de futurs projets à l'E2C.
C'est ça.
Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, d'ailleurs, justement, peut-être que tu reviendras. Emma, à toi.
Bonjour. C'est moi.
Ça fait combien de temps, toi, que tu es à l'E2C ?
2 mois et demi, à peu près.
D'accord, depuis, donc tu es arrivée presque en même temps que Jessime.
Quelques semaines près, on va dire. Ouais.
Pourquoi, d'ailleurs ? Je ne vous ai pas demandé aux autres comment vous êtes venus à l'E2C. Comment vous avez même connu l'E2C, d'ailleurs ?
Par la mission locale.
D'accord. Pareil.
Et moi, c'était plus. Du coup, bah, j'avais regardé un peu sur internet vu que j'étais un peu perdu à ce moment-là.
Ouais.
Et du coup, j'avais vu qu'il y avait du coup à l'E2C à Varennes-Vauzelles et j'ai demandé à Pôle emploi de m'aider à m'inscrire.
D'accord. Ça fait partie des,
oui, des
partenaires en fait, c'est ça, ouais. Mmh. Okay. Donc, du coup, toi, Emma, alors, dis-nous tout.
Bah, moi, de base, j'avais fait du coup un contrat d'engagement jeune avec la mission locale.
D'accord.
Donc, j'avais fait ça pendant 6 mois. Mmh. Et on m'avait beaucoup parlé de l'école de la seconde chance. Sauf que bah, pour moi, c'était déjà bien de faire contrat d'engagement jeune avec la mission locale.
D'accord.
C'est déjà beaucoup d'investissement et d'engagement. Et comme j'avais dit à mon conseiller, je vais y réfléchir, mais ce ne sera pas pour maintenant. Donc j'ai pris le temps d'y réfléchir. Et après, du coup, j'ai contacté ma conseillère de la mission locale pour du coup qu'elle m'aide pour tout ce qui est comment contacter Alexandra, tout ça, parce que je ne voyais pas le faire toute seule. Et elle s'en est occupée. Et après, bah, du coup, rendez-vous. Et puis, du coup, j'ai eu rendez-vous avec Alexandra. J'étais au début pas très à l'aise, j'étais assez stressée. Quand je connais pas, je suis pas très très à l'aise. Mais après, elle a su me mettre à l'aise avec Sandra, donc après ça s'est bien passé. Et puis après mon intégration, bah, de base on devait être 5, au final on a fini 3. Mais je me suis bien intégrée du coup avec les gens de mon groupe, donc ça va.
Et t'avais un projet déjà en tête ou pas spécialement ?
Alors, à la mission au Cagnon,
non.
Ensuite, après, j'ai un peu fait de mes recherches de mon côté et il y avait plusieurs du coup, domaines qui m'intéressaient, comme la diététique, tout ce qui était associatif.
D'accord.
Mais je ne savais pas encore quel poste. Mais en gros, c'est vraiment beaucoup juste rencontre, parler avec des personnes, rencontrer de nouvelles personnes, un peu dans le social, ce genre de choses que j'aime beaucoup.
D'accord. Et donc là, tu t'orienterais plus, tu ne sais pas trop encore.
Pour l'instant, je pense que ça sera plus associatif. C'est plus dans un... Je ne sais pas encore quel poste. J'ai fait des stages pour, en associatif pour voir un petit peu ce qui pourrait me plaire ou pas. Mais là, je ne sais pas encore quel poste. J'avais fait à la boutique d'Emmaüs sur Varennes-Vauzelles.
D'accord.
Mais en poids libre service, mais ça ressemblait un petit peu à ce que j'avais fait en stage de 3e ou en stage à la mission locale quand j'étais à la librairie du Cyprès.
D'accord.
Et... c'est un peu aléatoire en fonction des dons. C'est soit t'es beaucoup occupé, soit tu t'en mets un petit peu.
Ouais.
Et c'était pas du tout cette partie-là qui m'intéressait.
D'accord.
Mais du coup, par contre, quand j'étais à la fêtée dans les bureaux de la mission locale, donc j'étais en poste de chargée de mission avec Sophie. Et ça s'est super bien passé. Et donc après, à voir si je m'oriente plutôt dans ce poste-là, je vais voir avec d'autres stages que je vais effectuer.
Franck, pour ces jeunes stagiaires qui ont beaucoup de projets mais qui des fois sont un petit peu perdus, qui ne savent pas si c'est forcément réalisable, tout ça, c'est vous, c'est les projets que vous faites au sein de l'E2C qui les aident le plus à aussi avoir les idées plus claires sur leur avenir ?
Alors oui, effectivement, on a des jeunes qui arrivent avec des projets quelquefois définis, mais quelquefois, des jeunes ne savent véritablement pas quoi faire. Je dirais presque que c'est presque bien parce que les jeunes... peuvent découvrir différents métiers, différentes structures. Il y a, comme le disait Alexandra, ce que les jeunes veulent faire, il y a aussi ce que les jeunes peuvent faire sur le territoire, notamment avec les entreprises, les centres de formation. Et après, c'est vraiment un contrat de confiance entre les personnels, les stagiaires, dans la discussion, dans la découverte. Et c'est là que les projets s'affinent souvent. On a des jeunes qui peuvent changer totalement d'idée par la découverte de nouvelles entreprises, de nouveaux secteurs, etc.
Et ben c'est justement ce qu'on va voir grâce aux projets effectués, mais aussi aux projets à venir. Juste avant, on va souffler un petit peu, et puis j'ai mis le titre français en premier, comme ça c'est moi qui le dis, vous direz l'anglais après. On va écouter Louise Attaque tout de suite et on revient juste après.
Allez viens, je t'emmène au vent, Je t'emmène au-dessus des gens et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificiel.
C'était Louise Attaque sur Bac FM, je suis en compagnie de l'E2C pour le troisième rendez-vous des chroniques de l'E2C. Et on a parlé juste avant du rôle d'Alexandra Baya dans ce fameux E2C qui est chargé d'intégration. On a parlé de l'intégration des jeunes aussi, car je suis en compagnie d'Emma, de Jessime et d'Ornella, qui vont maintenant nous parler avec Franck et avec Léa, qui sont animateurs pédagogiques et référents santé, mais également animateurs aussi, Franck, on peut le dire, des projets qui ont été effectués. On viendra aussi tout à l'heure sur les projets à venir. Et puis on va parler escalade tout de suite, avec un projet qui a eu lieu récemment.
Oui, récemment, on a eu la chance d'avoir la visite de l'E2C Allier, qui se situe à Avermes. On a 8 jeunes qui ont rencontré nos stagiaires de l'école de la deuxième chance pour faire un échange un petit peu de pratique. Et puis, on les a invités cordialement à manger à l'E2C Varennes-Vauzelles. Et ensuite, nous sommes allés pratiquer l'escalade sur le mur du CFA bâtiment de Marzy, avec le comité d'escalade de la Nièvre.
L'objectif aussi par là, donc au-delà de cette journée escalade où on pratique aussi un sport, et j'imagine qu'il y a beaucoup de manières ludiques d'apprendre beaucoup de choses à travers l'escalade, il y a aussi cette volonté de rencontrer d'autres jeunes, d'autres départements, et d'échanger aussi sur peut-être des expériences qu'ils ont pu avoir, communes ou non.
Oui, on a l'habitude de rencontrer quelques écoles de la deuxième chance, principalement celles de la région Bourgogne-Franche-Comté. Je trouve que c'est important de faire un échange de pratiques, de voir un petit peu quels sont les territoires, et notamment les territoires économiques. Hein, les jeunes ont quelquefois des projets différents. Et puis l'activité, effectivement, c'est aussi une activité ludique où on se fait plaisir, mais avec beaucoup d'objectifs pédagogiques. L'activité est vraiment un levier chez nous à l'école de la deuxième chance pour travailler des compétences, pour développer la confiance, pour prendre du plaisir et pour découvrir de nouvelles choses. Parce que l'objectif de l'école, c'est véritablement de ne pas rester enfermé, c'est de travailler avec beaucoup de partenaires, de s'ouvrir à la vie culturelle, sportive, associative, afin que les jeunes développent aussi leur réseau, développent leurs connaissances puissent, et puissent et ben, imaginer leur projet, parce que quand on vient à l'école la deuxième chance, on a souvent pas travaillé, pour la plupart, on n'a pas d'expérience professionnelle, et on a une véritable, pas méconnaissance, mais on connaît que quelques secteurs d'activité en fait. Et l'objectif, c'est vraiment de découvrir tout un tas de choses pour que les jeunes puissent piocher dans ces différentes expériences et réaliser véritablement leur projet de vie, puisqu'on parle souvent de projet professionnel, mais on va englober aussi le projet de vie de la personne.
On est là, l'escalade, ça s'est bien passé ?
Oui, on était séparés, en fait on était tous chacun avec un élève de l'Allier, et puis on a fait l'escalade.
Voilà. Ouais, ça va, Jessime aussi, parce que vous êtes tous les deux, c'est tous les deux que vous avez participé,
ouais.
Hein, c'est
ça. Oui, c'était assez sympa, on a appris du coup à se connaître du coup avec le dossier Allier. Mm. Ça a aussi permis de voir aussi ce que chacun voulait entreprendre dans le futur. Du coup, c'était assez intéressant le travail collectif.
Ouais, c'est ce qu'on parlait de l'objectif aussi, ouais. De faire des rencontres et de communiquer aussi sur autre chose, au-delà de l'escalade, sur autre chose que
effectivement, que l'activité en question, de découvrir, par exemple, les problèmes de mobilité. Là, je pense à Ornella, qui est de Decize, par exemple, qui est à mi-chemin entre Avermes et Nevers. Et, de Decize, de Sougy même, je dirais. Là où il n'y a pas beaucoup de gares, il n'y a pas beaucoup de bus.
Très joli, très joli, très joli port de pêche, Sougy.
Mais c'est un des véritables problèmes du territoire. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui peuvent être isolés, qui n'ont pas de moyens de transport tout de suite. Et l'école de la deuxième chance met en place une navette, je pense que c'est important de le dire, tous les jours, de Decize, qui passe par la machine, Infi, Sougy, et qui permet aux jeunes de pouvoir suivre une formation professionnelle.
Tout à l'heure, Franck, vous parliez aussi de participer à la vie culturelle, et ça a été le cas avec un autre projet, c'est le projet 360 degrés, avec le printemps du numérique. On reçoit tous les mois sur BAC FM les médiathèques aussi de Nevers et Nevers Agglomération. On a beaucoup parlé de ce printemps du numérique, et le DEC y a participé aussi.
Alors effectivement, donc je vais faire un court résumé du projet. On travaille avec les jeunes sur la réalisation de photos 360 degrés et d'interviews podcast. Un petit peu comme vous à la radio.
En fait, vous nous faites de la concurrence.
Exactement. Alors, l'objectif, c'est que les jeunes réalisent des parcours virtuels des locaux de l'école de deuxième chance, déjà, pour présenter aussi aux autres stagiaires un petit peu les lieux. Et aussi, surtout, de présenter les lieux de santé du territoire de Nevers. Hein, parce qu'on parlait de santé tout à l'heure, on a quelquefois des ruptures de parcours de santé. Et l'objectif, c'est de faire connaître aux jeunes tous les lieux de santé du département.
Ça veut dire quoi, des ruptures de parcours de santé?
Bon, sur le territoire, on est un petit peu tous lotis
à la même enseigne.
On a des jeunes qui arrivent chez nous sans médecin traitant. La difficulté de trouver un rendez-vous chez le dentiste, de trouver un spécialiste lorsqu'on a des soucis particuliers. Et puis, quand on se rend compte des difficultés administratives et de déplacement, souvent, les jeunes lâchent totalement leur santé. Mmh. Et vraiment, je pense que c'est important, avec Alexandra, on en discute aussi vraiment amont, de garder cette continuité du parcours santé pour que les jeunes puissent être dans les meilleures dispositions pour suivre une formation.
Nous sommes d'ailleurs accompagnés par la CPAM par rapport au parcours santé. Moi, je suis relais CPAM également.
D'accord.
Franck également maintenant avec son rôle de référent santé. Je disais tout à l'heure que le lien qu'on peut créer tout de suite avec le jeune sur un entretien individuel passe également donc par cette un petit peu questionnement, je dirais, sur la santé, mais c'est aussi pour détecter d'éventuels besoins. Certains jeunes vont, par exemple, nous confier qu'ils ont déjà rencontré des psychologues ou autres, mais que malheureusement, ils ne peuvent plus faire parce que...
Alors qu'ils en auront encore besoin.
Exactement. Et souvent pour des raisons financières, parce qu'ils deviennent majeurs, certains, et du coup, ils n'ont plus d'accompagnement. Ça arrive aussi. Donc du coup, pour éviter... ces situations-là, on essaye de... Enfin non, c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup, beaucoup de partenaires de la santé. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés aussi dans ce domaine-là.
On va revenir sur un autre projet aussi. Le troisième projet, c'est les clés de la banque. Une sorte de Casa des Papels version E2C. Un jeu dilemme.
Dilemme. Alors oui, on travaille avec la FBF, la Fédération Bancaire Française.
Alors ça qui est intéressant aussi dans tous les projets, c'est important aussi de le rappeler, c'est qu'il y a toujours une intervention d'une personne en lien avec le thème voulu. C'est jamais dans l'idée de faire un projet, de faire une sortie. mais voilà, que entre vous, il y a toujours l'intervention d'un professionnel.
Oui, on travaille avec beaucoup de partenaires et on s'accompagne des compétences qui nous entourent, en fait. Hein. Les professionnels prennent de leur temps pour venir expliquer leur rôle aux jeunes de l'école de la deuxième chance. Alors, il y a deux sortes de projets, effectivement. Ces projets avec les partenaires sur multiples actions et aussi les projets individuels des stagiaires. Hein, parce que je rappelle qu'à l'école de la deuxième chance, les jeunes sont en capacité de monter des projets, de réaliser leurs idées. Je pense d'ailleurs au projet qui a lieu avec le conseil départemental où des jeunes peuvent être accompagnés par des professionnels de l'école de la deuxième chance pour montrer leur projet individuel. On est vraiment dans l'accompagnement, dans la gestion du projet, et c'est là où on développe, je pense, le plus de compétences.
Les clés de la banque, Ornella, Jessim, c'était bien ?
Ouais, c'était assez sympa, et puis l'intervenant était assez cool avec nous. Donc,
et c'était quoi le but en fait ?
Du coup, bah, y avait un jeu sur la table. Et le but, c'était d'avoir du coup 10 pièces. Et si vous voulez, il y avait des questions. Et voilà, à chaque question qu'on nous posait, bah, on avait une pièce en fonction du jeu, en fait.
C'est une sorte de jeu de société accompagné par un professionnel de la banque. Donc la FBF nous fournit, si je puis dire, des banquiers de banques différentes, hein, voilà, qui nous accompagnent tout au long du jeu. Donc des questions sont posées aux jeunes, il y a un objectif de gagner, et on s'appuie sur le professionnel de la banque pour nous donner des informations supplémentaires. S'instaure un échange, une discussion, et les jeunes spontanément posent des questions parce qu'on ne va pas effectivement spontanément voir un conseiller bancaire. Ça peut impressionner.
C'est pour les aider sur la gestion du budget, en fait. Déjà, c'est le but premier.
Bien sûr, il faut gérer sur un mois avec les frais fixes, mettre de côté le permis de conduire.
Et puis on parlait de mobilité aussi, journée de sensibilisation à la sécurité routière, il y a 7 actions en lien avec la sécurité routière dans l'année, c'est ça ?
Oui, depuis nombreuses années, on travaille dans le cadre du plan départemental d'action de sécurité routière avec la préfecture. Donc on met en place 7 grosses actions sur le territoire de la Nièvre, des actions à Château-Chinon, Cône et à Varennes-Vauzelles. L'objectif, bien entendu, c'est de sensibiliser un maximum de stagiaires et voilà, d'essayer de réaliser aussi des projets qui viennent des stagiaires, de ne pas rester forcément dans l'intervention pure et simple qu'on a pu avoir, où on est assis, on écoute, on essaie de mettre des choses en place un peu différentes. Notamment, on va réaliser un rallye des associations en trottinette électrique par les jeunes. Voilà. Et on a aussi l'action du tribunal des intervenants de sécurité routière de Saône-et-Loire qui vont venir dans la Nièvre sous la forme d'un tribunal pour nous présenter malheureusement un drame de la route, et ce sont des personnes qui ont véritablement connu ces drames.
D'accord.
Donc, ça peut être très difficile.
Jessim, tout à l'heure tu me parlais d'un test choc que tu avais fait toi, justement en lien avec avec cette action.
Oui, j'en ai fait un, on l'a tous fait d'ailleurs, et on a pu tester du coup la réalité d'un accident.
Et puis on a avec nous dans le studio aussi quelqu'un qui a un diplôme de sauvetage, si je me trompe pas, c'est ça ? Non, de geste au premier secours.
Deux personnes,
c'est vrai. C'est vrai. Alors c'était quoi ce projet justement ? C'était de se former au geste au premier secours, c'est ça ?
Oui, surtout en spécialité de sauveteur secouriste du travail, plus spécifiquement. Et c'était sur 2 jours. Et donc du coup, en premier jour, évidemment, on a eu toutes ces informations, donc ça fait beaucoup en une journée, beaucoup à digérer, mais en soi, quand on prend des notes et qu'on est assez impliqué, qu'on est vraiment intéressé, ça va tranquillement. Ensuite, on a eu 2e jour où le matin, on révisait un petit peu nos gestes et tout, on a les informations qui nous manquaient, les dernières et tout, et puis l'après-midi, on révise un petit peu avant de passer, puis après on fait l'examen, et puis après, on a un entretien à la fin. Bon, moi, je n'ai pas encore eu, c'était un petit peu compliqué. Mais comme Ornella, elle a eu l'entretien après pour savoir un petit peu si elle l'avait ou pas. Et moi, j'ai reçu par exemple par mail, vu que je n'étais pas là, j'étais en stage après.
D'accord.
Donc, voilà.
Alors oui, l'école de la deuxième chance est habilitée pour faire passer le certificat de sauveteur secouriste du travail, qui est reconnu sur le monde de l'emploi. Je rappelle que dans les entreprises, il faut à peu près environ 10% de personnel formé aux gestes des premiers secours, et 20% notamment sur les chantiers du bâtiment. Donc on essaie de faire passer un maximum de jeunes sur ce certificat, parce que je pense que c'est quelque chose à savoir, effectivement, comment réagir sur une personne qui est en arrêt cardiaque, qui ne respire tolère plus, comment en faire quand une personne saigne abondamment. Ce sont des gestes qu'on devrait connaître depuis le plus jeune âge, en fait. Et donc, tous les jeunes qui le souhaitent peuvent passer ce certificat de SST, bien sûr, gratuitement. Et on cible prioritairement les jeunes qui ont des besoins par rapport à leur projet professionnel. Hein. Je pensais notamment à l'animation, l'accompagnement des personnes avec un handicap ou l'accompagnement des personnes âgées. Voilà, ce sont des stagiaires qui doivent avoir en prérequis ce diplôme.
Et tout à l'heure, on parlait de parcours médical aussi. Justement, le 2C intervient dans le parcours médical, dans le parcours de santé de tous ces jeunes, de tous ces stagiaires. Et justement, ça fait partie, ce projet fait partie de cet objectif-là avec la semaine de la vaccination.
Oui, effectivement, on a le conseil départemental qui est intervenu la semaine dernière par l'intermédiaire de Claude Boutillon, qui est intervenu dans nos locaux pour vérifier les carnets de santé de nos jeunes et proposer un rappel de vaccination si nécessaire ou même prendre des rendez-vous par la suite. On a des jeunes qui ont pu se faire vacciner d'ailleurs, et puis on a parlé notamment
des collègues aussi.
Ouais, des collègues, c'était ouvert à tous. Et puis on a parlé aussi du papillomavirus. Hein, c'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir sur des jeunes qui ont entre 16 et 19 ans. Quoi.
Et puis vous êtes allé à Décathlon, enfin, c'est le dernier projet sur lequel on va revenir. Vous êtes allé faire du basket à Décathlon, et puis c'était encore une fois une rencontre à l'occasion de la journée de l'autisme.
Oui, du coup, bah, on a été à Décathlon pour faire du basket. C'était avec l'association
Apias.
Et du coup, c'était avec des autistes. Et franchement, j'avais peur au début. Mmh. Je ne savais pas comment ça allait se passer parce que je ne sais pas leur comportement. Si, par exemple, si j'allais toucher ou ils allaient mal réagir ou je ne sais pas.
Comment aborder un petit peu avec eux la manière de procéder, ouais, bien sûr.
Mais du coup, non, ça s'est bien passé. En fait, on ne remarque même pas qu'ils sont autistes.
Ouais, je vous félicite d'ailleurs parce que, avec la Pias, en partenariat pour les journées de l'autisme, on a décidé de réaliser une initiation au basket dans les locaux de Décathlon. Voilà un peu le pitch. Et ce sont les jeunes qui ont préparé cette initiation, hein, donc avec un petit peu d'appréhension, si ce n'est que la Pias était intervenue le lundi d'avant cette manifestation pour nous présenter justement ce qu'est l'autisme, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas, il y a beaucoup de choses à savoir. Et donc, voilà, ça s'est extrêmement bien passé d'ailleurs. Les jeunes étaient contents, les stagiaires d'eux-mêmes. Et voilà, c'est encore un beau partenariat, une belle action qui a été réalisée par les stagiaires.
Et un projet donc qui a été fait parmi ces nombreux projets sur lesquels on revient donc à chaque rendez-vous de l'E2C à l'occasion des chroniques de l'E2C. Juste avant de retrouver les projets à venir, quatre beaux projets à venir. On va parler sport, on va parler aussi musique, on va parler mini-bolide. On va faire une petite pause musicale qui a été choisie par Alexandra.
Donc, alors voilà, mon petit plaisir coupable, Jermaine Jackson et Piazzadora.
Et on revient tout de suite.
Merci.
Those days.
Les chroniques de l'E2C, troisième rendez-vous. On va évoquer les projets à venir sur lesquels on reviendra pour la prochaine émission avec un projet d'atelier autour de la création de supports de communication qui est organisé donc par Léa.
Oui, moi j'ai été, je suis à l'E2C depuis 2 mois. Je suis arrivée dans l'équipe d'animateurs pédagogiques avec des collègues qui ont des profils plutôt sportifs. Moi, mon profil est plutôt tourné vers la création et l'art de mon...
Le manuel, par exemple, plus.
Tout à fait, parce que j'ai une formation plutôt artistique. Donc, l'idée pour moi, ce qui m'intéressait en venant travailler à l'E2C, c'était d'apporter et de développer des projets autour de pratiques manuelles et artistiques. L'art, en général, c'est plutôt les domaines de l'art appliqué. Donc développer des projets autour de ça, toujours appliqués donc du coup à des conditions professionnelles. Donc là, l'idée avec ce projet-là, c'était de développer un projet autour de la création de supports de communication de l'E2C en créant des tote bags avec du tissu recyclé. Et une communication en reprenant le logo de l'E2C que nous allons travailler en linogravure, c'est-à-dire qu'on va graver en fait des plaques un peu spécifiques qu'on va graver, on va reproduire les logos qu'on va ensuite imprimer sur des tissus qu'on aura récupérés, puis qu'on va coudre sous forme de tote bag, et ça nous permettra de communiquer, de distribuer ces sacs à nos partenaires lors d'actions.
On a amené un bac FM, par exemple, la prochaine fois.
Pourquoi pas, pourquoi pas,
voilà. Moi, j'ai des idées comme ça.
Voilà. Mais du coup, c'est d'amener aussi les stagiaires à pratiquer de nouvelles activités manuelles qu'ils n'auraient pas l'habitude.
Et se découvrir peut-être un talent, une passion, peut-être qu'ils ne connaissaient pas forcément, et les amener vers un domaine qu'ils n'avaient pas l'occasion d'aborder avant.
Tout à fait. Et puis, ça permet aussi de pouvoir appréhender certaines compétences qu'on n'a pas dans d'autres activités. Là, ça demande, quand on parle de couture, de linogravure, ça demande de la concentration, certaines compétences plus spécifiques.
Alors, pour ces projets-là, donc, que ce soit celui-là ou les autres même qu'on va évoquer tout à l'heure, c'est les jeunes qui s'inscrivent à ces projets, c'est vous qui axez des projets sur certains jeunes en question. Vous savez que, par exemple, un jeune, pour X raisons, ne pourrait pas participer à ce projet parce qu'il ne serait pas forcément concerné ou...
Alors, c'est nous qui organisons, qui développons certaines activités. Après, eux peuvent être source aussi de propositions. Mais nous, quand on met en place des activités, après, on fait un positionnement des jeunes sur ces activités-là. Alors, effectivement, soit c'est des jeunes où on estime que les compétences dont l'activité vont être développées va aider ce jeune-là. Donc, on va le positionner dans ce sens-là. Ou alors, effectivement, on va se rendre compte que c'est un jeune qui a des appréhensions ou des difficultés. Et là, l'idée, c'est pas non plus de les mettre en difficulté en leur proposant des activités.
Oui, c'est pas de leur imposer forcément un projet auquel ils n'ont pas forcément envie de participer non plus. Ouais, c'est, ouais.
Alors, j'allais dire, ce qui fait la différence à l'E2C, c'est que, on en parlait tout à l'heure à Alexandra, dès le départ, on propose aux jeunes différentes activités, différents projets où ils peuvent se positionner. Ça déstructure un petit peu cette entrée en formation où le jeune est en capacité de réaliser lui-même sa propre formation, c'est-à-dire de se positionner là où il a envie. Et c'est vrai que quand on vous dit vous allez retourner dans une école la deuxième chance, quand on connaît pas la structure, on se dit non, j'ai pas forcément envie de retourner à l'école, moi je veux du travail, je veux aller en formation. Et l'objectif de cette discussion aussi avec Alexandra, c'est de démystifier un petit peu ce que c'est que l'école la deuxième chance. C'est un organisme de formation professionnelle où on peut gérer ses propres projets, où on peut imaginer plein de choses, et les jeunes sont quelquefois surpris parce que c'est pas une école traditionnelle en fait, il n'y a pas un professeur et
ce n'est pas une école du tout, hein.
C'est un organisme de formation.
Sur le fait que ce soit un organisme de formation, un centre de formation
et d'être acteur de sa formation, ça joue sur le levier de la motivation aussi. On a des jeunes qui peuvent avoir une formation à la carte individualisée, alors bien entendu avec de l'investissement, mais c'est l'occasion de découvrir des potentialités. Et justement de cibler les jeunes, les potentialités, pour les mettre sur des projets qu'ils ont envie. Notamment, je pense à Jessine qui va participer aux ateliers du conseil départemental. C'est lui qui va animer l'initiation à la photo 360, par exemple.
Tu peux nous en parler ou pas ?
J'ai pas trop participé du coup au projet 360, mais on m'a un peu formé à la photo. D'accord. Coup, je vais peut-être potentiellement faire du coup des photos et après du montage.
D'accord. Mais ça va se passer comment en fait? Tu vas, enfin, t'as un sujet à prendre en photo ou pas spécialement? T'as libre choix de photographier ce que tu veux.
En fait, on a deux ateliers la semaine prochaine, le mardi, de 14 à 15 heures, dans les locaux de la Deuxième Chance, et le jeudi matin, de 10 heures à 11 heures, où des gens, n'importe qui, pourra venir et s'initier à la photo 360. Donc, on a essayé de former un maximum de jeunes sur ce projet. On a eu un groupe de travail. Et puis, on les laisse animer un petit peu cet atelier. C'est pas de les mettre en difficulté, mais c'est aussi de se dire que ce sont des professionnels qui sont en capacité d'apprendre aux autres. Et je trouve ça très intéressant et très valable.
Et c'est l'objectif aussi de leur faire prendre des responsabilités, de les mettre sur le devant et de les laisser face à un auditoire aussi.
Bien sûr. Ce sont des jeunes qui ont des compétences et qui sont capables d'eux. On oublie trop souvent de le dire. On a des jeunes qui arrivent quelquefois à l'école et qui se disent « moi, je sais pas faire grand-chose, j'ai pas de diplôme », enfin, qui sont dans le négatif. Et on se rend compte très rapidement qu'ils connaissent beaucoup de choses, ils savent faire énormément de choses. Donc, à nous de souligner ces compétences et à nous de les préparer au monde de demain. C'est-à-dire que moi, j'ai confiance en eux et je sais qu'ils seront capables de transférer leurs compétences et connaissances aux autres. Voilà, on est sur des jeunes qui sont en capacité d'être embauchés et à eux de prouver leur valeur et de saisir la chance qu'il leur est donnée.
Et puis dans les projets à venir, il y a aussi un rendez-vous annuel et pendant 4 jours, le 2C part à Toulon.
Au bord de la mer. Oui, on va faire les Eudossiades. Alors, l'équipe n'est encore pas définie. Tous les ans, on pratique des rencontres sportives entre toutes les Eudossiades. Il y a environ 65 sites écoles de la Deuxième Chance en France. Et tous les ans, on se regroupe sur des Olympiades sportives et culturelles. Donc, on va faire une équipe de 7 jeunes qui sera accompagnée par 2 animateurs. Et puis, ils se rencontreront à Toulon, au bord de la plage, enfin au bord de la mer plutôt, sur des activités sportives et culturelles avec un classement final.
Comment ça se passe ?
On est reçu lundi à Toulon. Dès le mardi, il y a des épreuves sportives le matin et l'après-midi, c'est plutôt des épreuves culturelles. Rebelote le mercredi et jeudi, on finalise par une grande fiesta. une grande fiesta des écoles de la Deuxième Chance où les jeunes peuvent se rencontrer et notamment échanger parce que là, le 2 c'est Marseille, le 2 c'est Paris, le 2 c'est Nantes, le 2 c'est Guadeloupe. Donc c'est une super semaine à vivre. Et puis
il y a un classement de la meilleure de C et on sait très bien que c'est Nevers qui va la ramener.
Et on l'a gagné en 2014, on a gagné devant Marseille et Paris. C'est beau, de C Nièvre devant Marseille et Paris.
Et cette année, ce sera Rebelote.
Exactement.
On ramène la coupe à la maison.
Alors l'objectif, c'est pas forcément de gagner. On va pas cibler des gens forcément sportifs, on va cibler des gens qui peut-être ne sont jamais partis en vacances, qui ne sont jamais sortis de la Nièvre, des gens qui n'ont peut-être jamais vu la mer, c'est ce qui est arrivé.
Bien sûr aussi, oui, d'accord. Et,
ça, c'est aussi l'occasion de sortir.
Puis ce sont des jeunes investis. En fait, c'est aussi une manière un petit peu de les récompenser, si je puis dire. Puisqu'effectivement, on a beaucoup de jeunes sur site et on est obligé de faire une sélection. Donc, ce n'est pas forcément facile. Mais c'est vrai que c'est une manière aussi pour eux quelque part, de les récompenser de l'investissement qu'ils auront eu dans leur parcours, que ce soit leur parcours professionnel, les stages, mais aussi sur l'école et puis sur le lien qu'ils peuvent créer aussi. Et on parlait de compétences tout à l'heure, ça c'est hyper important. Effectivement, Franck le disait, ce sont des jeunes souvent qui ne s'en rendent pas compte en fait. Et moi, c'est vrai que j'insiste souvent à leur dire dès le départ, mais vous avez des compétences. Et même ce que vous avez fait avant, au niveau scolaire ou professionnel ou autre, ce n'est jamais perdu en fait. Ça, c'est hyper important de leur dire.
Et ils ont peut-être même des compétences qu'ils ignorent.
Mais bien sûr.
À travers leur parcours
et
leur vécu. Ouais.
Mais complètement. Et puis ils se disent souvent, comme disait Franck, j'ai rien, j'ai pas de diplôme. Mais non, mais ce que tu as fait, même dans ta vie perso, tu as forcément des compétences.
L'école de la vie.
Voilà, exactement. Et ça, ces compétences-là, il faut les mettre aussi au service des autres. Chose qu'on n'a pas précisé forcément, mais c'est vrai qu'on accueille des jeunes qui ont des niveaux totalement différents. Donc je leur dis toujours ce côté-là, ce qu'on va vous demander aussi, parce que du coup nos équipes sont vraiment, enfin les groupes qui sont constitués sont totalement hétérogènes, donc c'est vrai je leur dis toujours, mais ce que tu as fait, forcément tu peux le mettre au service de quelqu'un, tu peux aider, tu peux accompagner, tu as une facilité sur un domaine précis, tu vas aussi t'en servir et tu vas accompagner un autre stagiaire sur ça, et ça voilà, c'est vraiment important qu'ils se rendent compte qu'ils savent déjà plein de choses.
Il nous reste 2 autres projets à aborder à venir. Il y a un projet de mini-bolide.
avec la SAV Mini Bolide de Varenne Vauzelle. 6 jeunes vont créer 3 mini bolides électriques. Voilà, donc ce sont des modèles réduits. Ils feront ça à l'école de la deuxième chance en compagnie de Monsieur Merlin, le président de la SAV Mini Bolide. Ensuite, on va aller tester ces mini bolides sur le circuit de Varennes-Vauzelle. Et en parallèle, on va réaliser une fresque avec Custy, une fresque graphe, hein, voilà, à la bombe, avec Custy sur le circuit des mini bolides. Voilà, c'est un mini projet de 15 jours qui va accueillir 6 jeunes et ça a l'air sympa comme tout.
Et puis il y aura un autre projet aussi en musique avec Sébastien Boisseau qui vient parler de jazz.
Oui, il y a le festival de jazz hein, de Nevers qui est bien archi connu, qui est pratiqué chaque année. Et donc,
il y a aussi cet objectif à l'E2C Nièvre, c'est de participer aux actions culturelles de la ville.
Oui, on a travaillé...
Des différentes villes même.
Oui. L'objectif, c'est de travailler avec tous les partenaires du territoire. Et l'aspect culturel, et moi, je trouve super important. De la musique, les concerts. On a travaillé notamment avec le Café Charbon. On a pu réaliser toute la déco du festival de Nevers à Vif. On va visiter le petit théâtre.
Les accros de Maru.
Et là, du coup, avec le festival de jazz, on a la chance d'avoir monsieur Sébastien Boisseau, contrebassiste, avec un musicien mystère qui va venir rencontrer les stagiaires. Donc il y aura un petit concert et il y aura un échange autour de la musique, du jazz, dans un petit salon. On va recréer un peu l'ambiance salon dans l'école de la deuxième chance. Et c'est aussi faire rentrer le jazz dans les murs de l'E2C.
À travers ces 4 projets qu'on a évoqués, Emma, Jessie, Mernella, il y en a qui vous inspirent peut-être plus que d'autres?
Bon, pas spécialement. Après, moi, j'ai beaucoup aimé, c'était la journée d'ASST.
Moi, personnellement, vu que j'ai déjà fait de la musique quand j'étais plus jeune, on va dire. J'ai été au conservatoire, donc j'ai fait, par exemple, de la guitare. Et j'avais hésité, justement, à faire de la contrebasse. Donc, c'est vrai que moi, ça m'intéresserait personnellement.
Cette rencontre jazz.
Voilà, c'est ça.
Moi personnellement,
Jessie m'y veut là Toulon, je suis sûr.
en vrai, tous les événements du coup que le DC met en place, c'est toujours intéressant de découvrir. Donc pour moi, tout m'intéresse.
Oh, tu vas aller à tout. Bon, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Alors pour une prochaine venue, vous pourrez nous débriefer un petit peu ces projets qu'on a évoqués, organisés par Franck, par Léa et par Alexandra qui étaient présents avec vous. Merci à tous.
Merci,
puis on se retrouve pour le 4e rendez-vous des chroniques de l'E2C. Merci.
Merci à vous, au revoir. Merci.